Du 31 mai à la fin septembre, le manège du palais Wallenstein accueille une grande exposition consacrée à Jan Kližek, artiste tchèque installé en France dans les années 1950, mais dont le nom est quelque peu tombé dans l'oubli. Si les œuvres de Jan Kližek peuvent parfois évoquer l'art brut, il ne faut pas s'y tromper. L'apparente naïveté ou spontanéité de sa création picturale ou même sculpturale était le résultat d'un long cheminement artistique qui allait puiser sa source dans les arts antiques. Si avec sa femme il vécut toute sa vie modestement et même à la limite du dénuement, il n'en renonça pas pour autant à ce qui constitue l'essence même de son art, une liberté totale, au point même de renoncer à cette création. Un portrait d'Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Jan Kližek, en fait, est un artiste un peu oublié en France et en République tchèque. Grâce à vous, Anna Pravdova, il peut un petit peu plus être connu du grand public à l'heure actuelle grâce à une grande monographie qui est sortie et puis à une exposition qui va avoir lieu à partir du 30 mai. À Prague. Déjà, tout simplement, une question un peu personnelle, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée à Jan Kližek en particulier, vous ?
En fait, je m'intéresse depuis longtemps aux artistes tchèques qui ont vécu en France. Ça, c'est un peu le sujet de mes recherches.
Votre dada aussi.
Oui, c'est ça. Lié à ma vie personnelle, sans doute aussi. Et Jan Kližek, j'ai découvert son travail ici. Alena Nadvornikova avait préparé une exposition d'art brut en 99, je crois. Elle avait exposé quelques dessins de Jan Kližek. Et donc, j'avais découvert quelques dessins à l'époque dans cette exposition. J'avais demandé à Alena Nadvornikova qui est ce monsieur. J'avais beaucoup aimé son travail. Elle m'avait tout de suite mise en contact avec Václav Boštík, qui était un très grand ami de jeunesse de Kližek et la seule personne qui était toujours gardé contact avec lui ici. Et Václav Boštík m'avait dit oui, il y a toujours sa veuve qui est vivante en Corrèze, allez la voir, elle sera contente, etc. Donc je suis partie, c'était une aventure à l'époque, il faut changer 5 fois pour arriver de Paris dans sa maison, et la dernière étape il faut faire avec le car scolaire, il n'y a pas d'autre moyen pour arriver chez elle. Et donc je suis arrivée chez elle et tout de suite elle m'a montré les œuvres, on a beaucoup sympathisé, elle a su vraiment me transmettre quelque chose de leur vie commune qui était sans doute très forte. Et
c'était quand ça exactement?
Vers 99, oui. Et à partir de là, je me suis dit il faut écrire quelque chose sur Jan Kližek.
Donc c'est un travail, un sacré travail, puisque à partir de 99, le livre sort en 2013 et c'est une monographie qui est quand même très épaisse avec énormément de textes et beaucoup d'illustrations, de reproductions. Justement, est-ce que vous avez continué à garder ce contact avec Madame Kližek ou Kližkova pour les Tchèques, et en quoi vous êtes-elle aidée justement?
On allait régulièrement la voir avec mon mari, une fois tous les 2 ans ou des fois chaque été si on pouvait, mais c'est quand même assez loin. Et chaque fois elle nous racontait, elle nous montrait les choses qu'elle avait. Elle avait encore beaucoup d'œuvres de lui sous son lit. Et donc on a regardé, on est allé avec un scanner pour tout documenter parce qu'on se disait après ça va se disperser, personne ne pourra plus tout voir comme ça ensemble. Et donc elle nous a montré aussi sa correspondance avec André Breton, des choses comme ça. Donc maintenant, elle est décédée malheureusement il y a 2 ans et je pense que ça serait plus possible maintenant d'écrire une monographie sur Jan Kližek.
Vous avez fait ça à temps. Alors, du coup, on va un petit peu parler de Jan Kližek, hein, puisque, comme je disais, il est relativement peu connu. En tout cas, on espère qu'il va être plus connu grâce à cette exposition et grâce à cette monographie. Quel est un peu son parcours? D'où vient-il exactement? Comment s'est-il intéressé finalement à l'art? Comment s'est-il dirigé vers ses études d'art?
Il est né dans une famille à la campagne tchèque. Et il aimait beaucoup dessiner, il avait envie de devenir professeur de dessin. Donc il s'est inscrit à ce qu'on appelle ici Cheveute, l'école technique, les hautes études techniques. Et là, ils ont eu un cours de modelage. Et c'est là qu'il s'est dit, qu'il a beaucoup aimé ça, il s'est dit, si je tentais la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts, il a été accepté en 39. Et donc, 38. Donc il a pu faire une année et demie avant que les écoles ici soient fermées par les Allemands. Et après, c'était plutôt un autodidacte. Mais pendant la guerre, donc il se voyait beaucoup avec Václav Boštík et ensemble, ils ont fait toutes sortes d'expériences, ils discutaient sur le sens de l'art, etc. et c'était son parcours tchèque. Et ensuite, juste après la guerre, donc l'école, l'Académie des Beaux-Arts a réouvert et un professeur avait organisé un voyage à Paris pour les étudiants. Krizek en a fait partie et il s'est tout de suite dit, il faut que je revienne ici. Et peu après, il est revenu pour 3 mois et peu après, avec madame, il est revenu pour se marier avec madame Krzyszkowa. Et ensuite, ils sont repartis là-bas. Ils voulaient rester plusieurs années, faire des allers-retours.
Mmh. Finalement, en fait, il y a eu 1948, le putsch, le coup de Prague, et ils sont restés sur place.
Voilà, ils sont restés. Ils ont reçu une invitation du gouvernement à revenir à Prague, mais ils ne voulaient pas, ils sont restés là-bas.
Ah, ils ont quand même reçu une invitation officielle. Donc, en fait, le gouvernement tchécoslovaque communiste avait voulu avoir son fils, un artiste tchèque qui revenait chez lui, quoi.
Oui, mais je pense que tous les ressortissants là-bas ont reçu, j'appelle ça une invitation, mais c'était plutôt un ordre. Mm. Et par contre, si on refusait, on ne pouvait plus revenir. Donc, ils ont fait ce choix de se fermer la porte de retour et de rester là-bas.
Juste pour revenir un petit peu sur cette amitié avec Václav Boštík, était peut-être un nom un peu plus connu des Tchèques, hein, pour le coup, c'est un peintre très connu. Vous disiez qu'il avait gardé tout au long de la vie de Jan Křižek contact avec lui. Comment est-ce que, par une correspondance, est-ce qu'ils se sont vus finalement pendant ces années? J'imagine que ça devait être difficile avec le rideau de fer.
Ils ont beaucoup correspondu. Cette correspondance est très intéressante. Malheureusement, on a pratiquement seulement le côté de Jan Križek. Enfin, malheureusement, c'est déjà beaucoup. On n'a pas les réponses de... Si, on a quelques lettres de Václav Boštík, mais beaucoup moins. Et là, Jan Križek, lui... Václav Boštík était quelqu'un vraiment avec qui il partageait tout. Les déceptions, aussi les succès, etc. Donc, il lui écrit très ouvertement quand il a réussi à vendre quelque chose, etc. Quand il a eu une expo à Paris et qu'il a eu du succès, il a écrit à lui, mais à personne d'autre, même pas à sa maman. Donc Václav Boštík, c'était vraiment quelqu'un de très important et très, très proche pour lui. Donc il lui confiait ses soucis. C'est grâce à cette correspondance qu'on sait un petit peu pourquoi il a arrêté aussi son œuvre. Il explique à Václav Boštík sa décision d'arrêter sa création. Et ils se sont pas beaucoup vus, mais Václav Boštík a pu venir à Paris. Il me semble que c'était dans les années 50. Donc ils se sont vus une fois ou deux fois à Paris. Et ensuite, quand les Križek se sont installés en Corrèze, il est venu aussi 2 ou 3 fois les voir là-bas. Il a fait quelques séjours chez eux.
Alors, on disait qu'il reste en France après 1948. Alors, dans quelles conditions vit-il justement en France? J'imagine que ça ne doit pas être très facile pour des gens qui ont finalement émigré plus ou moins volontairement, en fait, ou qui sont restés par la force des choses.
Oui, ils ont vécu dans des conditions très modestes. D'abord, pendant un an pratiquement, ils habitaient à l'hôtel et Križek travaillait dans l'atelier d'un artiste espagnol qui vivait à Paris, qui s'appelait Honorio Condoy. Et ensuite, quand ils avaient plus d'argent pour payer l'hôtel, ils ont décidé de partir dans une ferme chez un couple tchèque qui aidait pendant la guerre beaucoup d'exilés, beaucoup d'émigrés tchèques et qui, après le putsch, ont reçu aussi beaucoup de ressortissants tchèques qui sont émigrés, qui les ont gardés dans leur ferme. Donc les Križek ont pu rester quelques mois dans cette ferme en échange de quelques travaux, et Križek a pu un peu travailler là-bas, mais ils ne gagnaient pas d'argent. Donc au bout d'un moment, ils avaient besoin bien sûr de gagner de l'argent, donc ils ont décidé de continuer encore plus dans le sud et essayer de gagner de l'argent avec la céramique. Ils sont d'abord allés à Aubagne, ils n'ont pas trouvé aucun potier voulait les recevoir. Donc ils sont continués jusqu'à Valoris, et là pareil, Križek a fait le tour de tous les ateliers, personne ne voulait lui laisser un peu de place dans son atelier. Mais il s'est souvenu qu'à Paris, quand il a fait une expo au foyer d'art brut à Paris, juste avant de partir, Picasso était venu le voir et qu'il avait aimé son exposition, et Picasso se trouvait à Valoris, qui commençait justement à faire aussi de la céramique à Valoris à l'époque. Et donc il est allé voir le gardien de Picasso en lui amenant quelques dessins et demandant s'il pouvait demander au maître Picasso s'il pouvait le recevoir. Donc il a déposé le dossier quand il est avec ses dessins, et quand il est revenu, le gardien lui a dit allez-y, il vous attend. Et Picasso lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, et lui a dit qu'il voudrait simplement s'il pouvait perdre un mot pour lui dans un atelier de poterie où il travaille, ou dans un autre, s'il pouvait avoir une toute petite place pour faire la céramique. Donc Picasso a d'abord allé voir son atelier de poterie où il travaillait, qui s'appelait Madura, et ils n'ont pas voulu. Et
donc malgré le fait de la recommandation de Picasso lui-même.
Ouais. En fait, ils ont demandé d'où venait Križek, et quand ils ont su que de la Tchécoslovaquie, ils n'ont pas voulu. On ne sait pas trop. Madame Krizek disait que peut-être parce que la municipalité de Valoris était de gauche à l'époque, même peut-être communiste, et que du coup, avoir quelqu'un qui a quitté volontairement le régime communiste pour qui a émigré, peut-être ils pensaient que ça pouvait leur poser de problème, mais on ne sait pas, c'était juste une déduction. Mais il y avait un autre potier qui était ami avec Picasso, qui s'appelait Pico, qui a dit d'accord, il lui a fait une petite place, et au bout de quelques semaines, quand il a vu comment Krizek travaillait, il lui a carrément libéré un étage dans son atelier, et il a pu comme ça travailler là-bas pendant quelques mois.
Alors, ce qui est intéressant chez Jan Krizek, c'est qu'il a une œuvre qui est double, en fait. Hein. Il a son œuvre de sculpteur, et c'est finalement vers ça qu'il tendait, en fait, à l'origine, hein, puisque vous avez dit qu'il a découvert ça pendant ses études au CVUT. Mais par la force des choses, et pour une question, parfois des questions simplement pratiques, il a surtout, l'essentiel qui nous est resté, c'est aussi ses peintures, ses dessins, ses aquarelles, en fait. Comment ça se fait?
Il était surtout sculpteur. Il aurait aimé faire beaucoup plus la sculpture, mais comme il habitait, donc ensuite il a dû remonter à Paris et il vivait dans une chambre de bonne, il n'avait pas de place. Il a fait quand même des toutes petites sculptures en terre et en bois, mais il se réalisait surtout dans le dessin. Mais comme de toute façon, pour lui, c'était quelqu'un de très spéculatif, qui réfléchissait beaucoup, ils essayaient de résoudre un problème à travers son œuvre. Donc finalement, je pense que peu importait le médium qu'il utilisait. Mais s'il avait le choix, il aurait fait beaucoup plus la sculpture et il a pu faire quelques sculptures grand format comme il aurait aimé en faire, grâce à Charles Estienne qui l'avait invité en séjour dans sa maison à Gordes où il a pu rester plusieurs mois.
Faut préciser que Charles Estienne, c'est un critique d'art très connu en France.
Oui, Charles Estienne s'occupait de tous ces peintres un peu abstraction lyrique à Paris après la guerre, etc., qui a beaucoup apprécié l'œuvre de Krizek et qui l'exposait avec les autres peintres et qui a vu dans les conditions dans lesquelles Krizek travaille. Donc, il lui a prêté sa maison une fois à Gordes et une fois, il a arrangé qu'il pouvait passer l'été en Bretagne où il a pu faire aussi des grandes sculptures en pierre et en bois.
Alors, j'ai lu dans votre monographie que Jan Krizek a été un des premiers créateurs à être exposé au Feuillet de l'Art Brut de Jean Dubuffet. Alors j'étais assez étonnée, c'est vrai que quand on feuillette, en fait la première fois que j'ai feuilleté finalement la monographie, puisque moi-même je ne connaissais pas très bien son œuvre, même pas du tout, je me suis dit on dirait de l'art brut, et en même temps j'en avais jamais entendu parler en tant qu'artiste brut auparavant, parce qu'on connaît quand même une bonne partie des artistes bruts les plus connus. Comment ça se fait finalement que Jan Krizek s'est retrouvé catalogué finalement dans ce genre, hein?
Ben, il était catalogué à ses débuts dans ce genre, mais il en est vite sorti parce que en réalité il n'est pas un artiste d'art brut, il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts, etc. Mais c'est vrai que son travail est tellement impulsif, intuitif, spontané, il a essayé volontairement d'oublier tout ce qu'il a pu apprendre à l'Académie, que ça peut entrer dans cette catégorie par certains aspects. Et le fait qu'il s'y est retrouvé, c'est parce que ce sculpteur espagnol chez qui il travaillait à Paris était ami avec Michel Tapier, qui était le critique d'art qui s'occupait du foyer d'art brut avec Jean Dubuffet, parce que Jean Dubuffet était à un moment donné parti et c'est Michel Tapier qui s'occupait de ce foyer. Et c'est lui qui a vu les œuvres de Krizek et il a dit, il faut absolument que j'expose ça, c'est très fort, etc. Donc c'est lui qui les a installés dans la toute première exposition qui a eu lieu dans cet espace. Il a mis six sculptures de Jan Krizek avec les autres artistes vraiment art brut, entre guillemets, enfin, qui sont devenus par la suite des grands noms d'art brut comme Aloïs ou Aloïs Corbas, Wolfley ou d'autres artistes.